One, two, three, four. Crazy Afrobeat.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Une fois n'est pas coutume, on va débuter cette émission avec toi Fanny, bonsoir.
Bonsoir.
Nous allons parler du Festival de la Terre pour un troisième volet.
Exactement, et nous parlerons des nouveautés du festival.
À 18h20, nous passerons à la Rose des Vents avec ce soir Anna. Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Nous parlerons de famille d'accueil.
Tout à fait, un projet de Lozard et nous accueillerons deux invités qui viendront nous parler de ce projet.
Aujourd'hui, le 3 mai, c'est la journée de la liberté de la presse. Daniel, nous allons en parler avec la Fondation Hirondelle.
Alors oui, c'est une journée qui vise à encourager des initiatives en faveur de la liberté de la presse. Mais c'est aussi l'occasion pour les acteurs concernés de rappeler que la liberté de presse est un droit qu'il faut sans relâche protéger et aussi renforcer.
Donc nous recevons Jean-Marie Etter, ce sera tout à l'heure, c'est environ de 18h25. À 7h20, nous passerons à Cultiver Lausanne et avec une nouvelle voix ce soir sur Django. Bonsoir Camille.
Bonsoir.
Nous allons découvrir deux jeunes pour un two-man show.
Exactement, ce soir nous accueillons Renaud de Vargas qui nous parlera de son nouveau spectacle.
Voilà, rendez-vous donc dans la culture. Et puis pour conclure cette 53e émission, nous retrouverons les mardis de Stéphane Benanzi, la chronique d'actualité culturelle, le Festival de la Terre, les familles d'accueil et la liberté de la presse avec la Fondation Hirondelle, Malvin et Renaud pour le Deux Hommes Show. Et les mardis de Stéphane Benanzi, c'est le programme de ce mardi 3 mai sur Radio Django. Émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien, je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Ce soir, dans Vivre à Lausanne, nous retrouvons le Festival de la Terre avec une dernière émission. Ce festival, on le rappelle, aura lieu du 10 au 12 juin sur l'esplanade de Montbenon à Lausanne.
En effet, Fabien, c'est la dernière émission consacrée au Festival de la Terre. Donc cet événement, qui est entièrement gratuit, prône avant tout une transition écologique, un mode de vie plus doux et léger pour l'humain et la planète. Et pendant 3 jours du festival, les acteurs du changement se réunissent, que ce soit des producteurs, des artistes ou des thérapeutes. C'est donc aussi une plateforme pour ces acteurs et qui est surtout ouverte à tous et aux festivaliers. Les festivaliers, du coup, y trouveront des espaces thématiques, des concerts, des conférences, des ateliers.
Oui, nous en avons d'ailleurs eu un aperçu la semaine dernière avec l'atelier Tote Bag et leur Hyper Café.
En effet, Fabien, et lors de la première émission, on le rappelle, nous avons eu une discussion très instructive et intéressante avec Dominique Bourg sur les questions environnementales et les changements à venir.
Et ce soir, Fanny, de quoi allons-nous parler ?
Alors, ce soir, nous retrouvons tout d'abord Vincent Girardin, le coordinateur du festival, qui va évoquer avec nous les quelques nouveautés prévues pour cette 12e édition. Puis, on ira à la rencontre de Dan Asher, artiste et entrepreneur social, qui réalise des créations interactives ou participatives. Donc, le Festival de la Terre a fait appel à cet artiviste qui réalisera pendant le festival une œuvre participative et monumentale.
Donc on en saura plus dans quelques instants. Bonsoir Vincent Girardin.
Bonsoir.
Bienvenue pour cette troisième édition. Alors, enfin cette troisième édition sur Radio Django, bien sûr, puisqu'on parle du Festival de la Terre avec vous. Alors quelles seront les nouveautés prévues pour cette édition 2016 ?
Alors tout d'abord, pour cette édition, nous avons revu quelque peu la disposition des espaces en fait, du festival sur l'esplanade de Montbenon. Nous avons principalement recentré sur ce parc face au sud, face à cette magnifique vue sur le lac, certains espaces. Plus précisément, on a repensé la zone et l'offre de restauration. D'autre part, nous avons pour la première fois une roue népalaise pour les enfants, une animation pour les enfants.
Vous nous expliquez le principe ?
Alors le principe, c'est que c'est une roue de 6 mètres de diamètre construite en bois par la fondation ABS ici à Lausanne. Et qui est à traction humaine, donc sans électricité. Les animateurs la font tourner avec quelques 8 enfants sur les bancs. D'autre part, on va traiter du thème de l'éducation et de la pédagogie aussi le dimanche matin, ça c'est un point fort de cette édition, ainsi qu'un hackathon sur l'économie circulaire open source, qui s'inscrit dans un mouvement mondial d'ailleurs. Et on peut mentionner encore une seconde scène acoustique cette année qu'on inaugure sur le site.
Pour des concerts donc ?
pour des concerts et quelques petits ateliers aussi.
D'accord. Parlons maintenant d'un de vos grands points forts de cette 12e édition. Vincent, cette année, vous avez décidé d'offrir aux festivaliers la possibilité de participer à une œuvre collective. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, en effet, on souhaitait en fait créer un projet, une installation à laquelle tous les festivaliers et la population puissent contribuer. Une œuvre qu'on puisse construire tous ensemble du vendredi au dimanche, à laquelle on participe tous, et afin de prendre conscience finalement qu'en mettant nos forces ensemble, on peut à la fois faire de grandes choses, résoudre de grands problèmes et créer du lien.
Et vous êtes donc allé chercher Dan Asher, donc cet entrepreneur social qui est aussi fondateur du studio de créativité et d'innovation sociale qui s'appelle Happy City Lab à Genève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rencontre ou comment avez-vous eu l'idée d'aller chercher cet homme ?
Alors, je connaissais Dan et son équipe depuis quelques années. J'admirais personnellement ses réalisations, que ce soit les boîtes d'échange entre voisins ou le ciné Transat à Genève, ou les pianos dans la rue, ce genre d'intervention dans l'espace urbain. Et du coup, pour moi, c'était logique de leur proposer de nous réaliser un projet pour cette installation collective. Et voilà, ça débouche sur une belle collaboration ici à Lausanne, qui est finalement une ville dans laquelle il a encore assez peu intervenu.
Eh bien, on vous remercie beaucoup, Vincent Girardin, pour le développement de ces nouveautés qui seront visibles donc, au Festival de la Terre du 10 au 12 juin à l'Esplanade de Montbenon à Lausanne. On rappelle, Vincent, que vous êtes le coordinateur du festival. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Et on continue, Fanny, de parler des nouveautés de l'année. Tu es allée à la rencontre, justement, d'Anne Asher pour parler de ses activités, mais également de ce qu'il proposera pour cette édition du festival.
En effet, et je suis allée le retrouver au Salon du Livre de Genève qui avait lieu ce week-end, où il avait également une œuvre 100% interactive, et c'était très intéressant. Bonjour Dan Asher, merci de m'accorder un moment. Vous pouvez peut-être commencer en quelques mots par vous présenter. J'ai lu en effet que vous vous définissiez comme un artiviste. Peut-être qu'on peut commencer par là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Artiviste, ça signifie qu'il y a un côté tout à fait artistique. Donc j'ai mon côté art et artiste qui, pour venir et faire des créations, mais pour avoir un impact social. Donc il y a vraiment le côté artiviste, il y a le côté entrepreneur social. Donc ce sont les deux facettes de mon travail, de ma personnalité, de ma vie. Et ça se traduit par plein de projets différents qui ont toujours cet impact sur la population avec des touches artistiques.
D'accord. L'idée aussi derrière tout ça, c'est un peu de bousculer les gens, de bousculer nos habitudes.
L'idée, c'est de créer des situations où, en fait, tout à coup, on va créer une rupture dans le quotidien et on va faire que les gens vont vivre une expérience positive ensemble. Ça va passer par n'importe quel moyen. Ça peut être par le cinéma, la musique, le dessin, ou des situations qu'on crée avec de l'échange dans les rues. Ça va dans tous les sens, mais le but, c'est toujours ce moment de rupture où, tout à coup, on va vivre quelque chose ensemble. Il y a un regard qui va s'échanger, puis on va se sentir élevé.
D'accord. Alors, bon, concrètement, là, aujourd'hui, on est devant Palexpo, où vous avez effectivement aussi une installation sur place qui s'appelle La Fabrique. C'est donc un appartement de 7 pièces, entièrement interactif. Qu'est-ce qu'on y fait ?
C'est une carte blanche que le Palexpo nous a donné avec le Salon du Livre. Et l'idée, c'est effectivement un appartement de 7 pièces où chaque pièce est d'une couleur complètement différente. Donc déjà, en fait, il y a cet environnement qui est assez perturbant.
Et c'est très
assez
visuel.
Incroyable. C'est super visuel, c'est très très beau à voir. Et dans chaque pièce, il y a un exercice d'écriture différent. Donc dans chaque pièce, les gens ils viennent et ils écrivent sur des supports qui sont des couleurs complémentaires par rapport au mur. Et ils posent ces supports, enfin leur création sur les murs. Donc ça fait sur 5 jours, là on est déjà au 4e jour et il y a toutes les couleurs qui sont en train de basculer dans l'appartement. Et l'idée c'était en fait qu'au Salon du Livre, on vient consommer du livre, on vient acheter, on vient écouter des conférences. Et là tout à coup, on fait basculer ceci et en fait ce sont les gens qui deviennent créateurs à leur tour.
Et actifs et non plus passifs.
Voilà.
Et ça marche, vous êtes content du résultat ici à Genève ?
On est très content, ça marche super bien. L'appartement est déjà super super couvert et c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment dans tous nos projets. On voit qu'on arrive à faire que la population s'implique, se responsabilise.
Vous êtes
l'initiateur de tous ces projets, mais vous ne travaillez pas tout seul. Vous avez créé une structure, Happy City Lab, où là, vous avez toute une équipe derrière vous. Comment ça se passe un peu ?
C'est clair. Moi, j'ai les idées un petit peu absurdes, mais tout seul, je ne ferai pas grand-chose. Donc, on est 6 à 7 au bureau. C'est une équipe assez importante. Et on est présent. On a fait des projets là cette année sur 5 villes différentes. Maintenant, on va aller sur Paris. On va un petit peu ailleurs. Mmh. Et ça se propage.
Donc, pour résumer un peu, donc vous proposez des projets artistiques. Au centre de tout cela, le but, c'est de créer des expériences collectives positives. Vous investissez l'espace public. Mais maintenant, vous êtes aussi... vous travaillez en collaboration avec, justement, des villes, des communes, des festivals, des entreprises. Mais est-ce qu'avant tout ça, vous avez fait des œuvres, je dirais, sans permission, un peu en format désobéissance civile ?
Bien sûr, il faut bien faire ses marques au début, donc l'idée... Enfin,
je suis vraiment comment étaient vos débuts ?
Écoutez, moi je trouve qu'il y a une philosophie que j'essaye de pousser. On vient vers moi souvent en me disant « oui, j'ai un projet, peut-être qu'on pourrait le faire ensemble ou vous pourriez le faire ». Puis moi je suis toujours là, moi j'ai déjà beaucoup de projets à moi, j'ai trop d'idées, j'ai un backlog de 180 idées à faire là. Faites-le, il faut que tout le monde s'y mette et c'est simple, il faut juste faire et on n'a pas besoin de faire des projets qui sont absolument immenses, ça peut être des choses toutes simples et après on peut construire dessus. Donc moi j'ai commencé par faire des manifestations pour l'environnement, j'ai fait des déplacements à vélo, j'ai fait des cinémas un petit peu impromptus dans ces différents lieux, les boîtes d'échange, on va peut-être en parler plus tard, j'ai commencé la première, je l'ai mise au coin de ma rue à la punk comme ça et puis à regarder ce qui se passe. Et avec beaucoup de projets en fait on teste, l'idée c'est comme on appelle ça du lean management, c'est de faire une itération le plus vite possible et de voir comment c'est vécu. Si ça marche, on le développe. Si ça marche pas, on regarde ce qu'on peut changer ou de dire c'est pas une bonne idée et on avance à la prochaine.
Bah justement, parlons pas forcément des boîtes d'échange, mais justement vous proposez des créations de plusieurs types, des créations immersives, participatives, monumentales. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de vos créations récentes ?
Créations récentes. Bon, dans les plus connus, chez nous, il y a évidemment donc Ciné Transat, qui est une sorte de festival. Enfin, le festival, ce sont des projections de films gratuites au bord du lac à Genève. C'est un événement qui est très populaire. On a jusqu'à 90 000 personnes sur la saison. Mais il faut savoir que on passe que des films cultes qui finissent bien. Et il y a plein de choses qu'il faut que ça devienne... ça va beaucoup plus loin que simplement une projection. L'idée, c'est qu'on arrive à créer quelque chose sur cette pelouse en un moment collectif. Donc le film, pour nous, c'est un prétexte à ce qu'on arrive à faire vivre sur la pelouse. Et c'est des vécus très, très beaux. Il y a un projet qu'on fait qui vient d'un artiste, qui est un ami à moi, qui s'appelle Luc Jérôme. Ce sont les femmes au piano dans les rues. Donc l'été... On a fait ça à Nyon, on a fait ça à Genève. Là, on essaie d'aller, et normalement, l'année prochaine, on sera à l'autre bout du lac, donc plus vers chez vous. Mm-hmm. Et là, on met 60 pianos dans les rues en libre service, vraiment en appropriation par la population pendant 2 semaines.
Il n'y a pas de dégradation ?
Il n'y a pas de dégradation ou très, très, très peu.
C'est assez intéressant, justement, parce qu'on a l'impression que si on laisse quelque chose de valeur comme ça dans la rue, tout le monde va soit en profiter, soit justement s'amuser à le dégrader. Et je trouve que le fait qu'il n'y en ait pas, c'est très positif, finalement. Les gens réceptionnent ça.
Mais complètement. C'est vraiment aussi partie intégrante de mon travail. C'est inverser cette responsabilité. C'est-à-dire, ce n'est plus à la ville ou à la commune ou à l'entreprise de mettre les choses en place et de les faire vivre. En fait, je crée une situation. C'est ce mot donc, de situationnisme. En fait, je crée une situation où tout à coup, c'est la population qui voit que c'est à eux de le faire vivre. S'ils ne le font pas vivre, si ça ne marche pas, ben, le projet il meurt, c'est tout. Ce n'est pas grave, c'est une expérimentation. Donc, les pianos, typiquement, quand moi j'ai présenté le projet à la ville de Genève la première fois, t'es gentil, mais en 2 jours, les pianos, ils sont soit dans le lac, soit on y a mis le feu. C'est vraiment le feedback que j'ai eu. Puis je me dis, écoutez, on va voir. Et ça a marché comme ça, c'était incroyable. Et à la fin du projet, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Dan, tu nous as redonné confiance en la population. Ce qui est très fort.
C'est très
fort. Et donc, avec tous nos autres projets, typiquement les boîtes d'échange entre voisins, donc ce sont des anciennes boîtes à journaux qu'on récupère ou qu'on fait construire maintenant. Elles sont peintes par des artistes, c'est écrit boîte d'échange entre voisins, prendre quelque chose, donner quelque chose. On les pose dans les rues. Et encore une fois, c'était les remarques qu'on a, mais si quelqu'un vole le contenu, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça. Mais c'est pas grave, en fait, l'idée c'est je crée cette situation, qu'est-ce que les gens vont en faire ? Et ça marche très 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 bien. Il y a aujourd'hui 83 boîtes qui sont posées.
Dans le canton.
Donc sur Genève, sur la Suisse, à Lyon. Après, on a créé une vidéo en timelapse de l'utilisation d'une des boîtes. Elle a été vue 465 000 fois de par le monde. On a des articles au Brésil, en Russie, en Thaïlande, vraiment de tous les côtés. Et même si on nous dit oui, mais il n'y a pas du vol. Et en fait, la notion de vol, elle n'est pas applicable.
Elle est désuète dans ce cadre-là.
Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose dont on n'a plus besoin, qu'on pose dans la boîte pour que ça soit utile à autrui. Point. Et ça marche très, très bien.
Et du coup, donc, on va aussi parler du Festival de la Terre, où là aussi, vous proposerez une œuvre collective participative qui va se nommer « Message pour la Terre ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus en quelques mots ?
Oui, en fait... Le Festival de la Terre, donc, c'est un festival pour l'environnement qui a des messages à faire passer. On s'est dit comment on arrive aussi à impliquer les participants, les visiteurs, pour qu'on fasse encore cet acte de création, qu'on ne soit pas simplement spectateur, mais qu'on devienne acteur aussi, et aussi qu'on s'engage pour la Terre. Donc là, on va venir avec une installation qui est assez large, elle va faire environ 8 mètres de long.
Monumentale.
Assez monumentale. Et en fait, il y aura deux niveaux de lecture. De loin, en fait, on verra ce mur sur lequel il sera écrit « Terre ». Ce sont donc des lettres assez géantes comme ceci, et en fait on verra qu'il y a des gens qui sont agglutinés autour et qui sont en train d'écrire et faire des choses avec cette paroi. Et quand on va s'approcher, on va comprendre qu'en fait toute la paroi est faite de pixels, de feuilles de bois de différentes couleurs, et les gens sont en train d'écrire sur chacune de ces feuilles leur message pour la Terre, et ils vont venir et les accrocher à ce mur. Et ce mur, donc, au fur et à mesure de la manifestation, va vivre, va se compléter avec tous les messages et tous ces engagements de ces personnes pour avoir ce deuxième niveau de lecture. Donc on s'approche, on voit tout ça et faire vivre cela. Et après, je sais que les organisateurs souhaitent faire vivre ces feuilles outre le festival et qu'elles voyagent un petit peu partout.
Et quel est, dans votre idée, quel est l'impact qu'aura ce projet sur les festivaliers ?
Donc l'impact, il est à différents niveaux. Premièrement, en fait, il y a visuel, il y a purement artistique, beauté. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi ? Il y a le questionnement. Je vais m'approcher, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on voit aussi donc, cette émulation des gens qui viennent et qui s'engagent. Après, il y a ce message que l'on est encouragé à aussi nous mettre sur le papier et à l'accrocher. Donc, on s'engage à faire quelque chose. C'est très symbolique, mais ça marche aussi. C'est-à-dire que si moi, je dis en l'air, oui, je souhaite faire ça pour la Terre, ça n'engage que moi. Le fait que je le dise à quelqu'un d'autre ou que je l'écrive et que d'autres me voient le faire, ça fait une implication plus grande.
Il y a l'acte.
Il y a l'acte, voilà, tout à fait. Donc, on travaille à tous ces différents niveaux. Après, c'est aussi, on plante des graines. On ne peut pas s'attendre à ce que ce jour-là, la vie de la personne bascule. C'est juste une graine supplémentaire avec des graines qui doivent être plantées tout le long de l'année avec différents messages. Et c'est là que, petit à petit, on arrive à faire changer un petit peu les mentalités et les fonctionnements des gens.
D'une manière générale, à la fin de vos événements, qu'advient-il de ces installations ? Est-ce que vous les gardez ?
Donc, les installations, il y en a plein de différents types. La plupart, on stocke le matériel pour pouvoir le reproposer. Et le but, c'est d'avoir un impact le plus grand possible, donc aller dans d'autres contrées, d'autres publics, d'autres populations. Celles qu'on ne peut pas réutiliser telles quelles, le matériel est récupéré et transformé pour la prochaine installation. Donc il y a vraiment un cycle en fait, du matériel.
D'accord. Et peut-être pour finir un peu cette interview, est-ce que vous avez d'autres... Bon, il y a le Festival de la Terre, mais est-ce que vous avez d'autres projets en vue ? Quelles sont vos prochaines... idées.
Oui, il y a donc là ce qui arrive. Donc là, il y a le Salon du Livre. On travaille sur la fête des écoles depuis des années aussi, où en fait, on nous avait appelé par rapport à... pour faire transformer un peu cette fête où il n'y avait que des manèges. Donc on avait viré la moitié des manèges pour venir avec des sortes d'activités où les enfants sont actifs et acteurs. On va aller à Paris pour Présence Suisse, pour... la présence pendant Eurofoot, donc c'est nous qui la créons sur place. On va travailler avec le PFL, on va travailler avec pas mal de gens et pas mal de communes qui nous appellent.
Le travail ne manque pas,
il y a beaucoup de projets. Là, on va être sûrement à 20-25 projets sur cette année différents. Donc l'équipe de cette personne, elle est à fond, quoi. On est vraiment à fond.
Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Et puis évidemment, bonne chance pour la suite. On vous retrouve au Festival de la Terre.
Avec grand plaisir, merci.
Donc deux beaux projets présentés ici, Fanny.
Et oui, Fabien, et vraiment, on se réjouit d'écrire notre message pour la Terre. Je remercie vraiment encore Dana Cher de m'avoir accordé un moment et j'encourage nos auditeurs à aller voir son site. Ses créations et ses idées sont assez incroyables et offrent des expériences franchement inédites.
Eh bien, merci beaucoup, Fanny. Et c'est la fin de cette série en collaboration avec le Festival de la Terre. Merci encore à tous les invités et les participants de ces trois émissions.
Merci également, un grand merci spécial à Vincent Girard, donc qui nous a accompagnés pour ces trois émissions et qui nous a également permis de dévoiler quelques aspects du festival.
Ah ben oui, effectivement. Au cours de ces trois émissions, nous avons abordé l'aspect environnemental, les tote bags et Repair Café et aujourd'hui des nouveautés de l'édition 2015, dont l'œuvre participative notamment. Une série de sujets à retrouver sur notre site www.django.fm et puis rendez-vous bien sûr au Festival de la Terre du 10 au 12 juin 2016. Et on le redira jamais assez, mais on le redit. Allez, encore une fois, le festival est entièrement gratuit. Merci Fanny.
À bientôt, merci.
Et puis on se quitte avec quelques notes de musique. Le groupe Noga, avec ce titre Laissez partir, qui se produira le dimanche à 16h. Et c'est un groupe pour les familles.
Je ne suis pas quelqu'un de bien, non, je ne suis pas ce quelqu'un que vous voulez voir dans ma peau, même si le temps m'a rendu beau. Ce n'est pas moi que vous aimez, vous ne prenez que la moitié, pas l'ombre du nombre au tableau, tout est si lisse sur la photo. Vous êtes innocent, l'histoire ne vous concerne pas. Vous êtes innocent, je n'ai qu'à la garder pour moi. Vous êtes innocent, vous êtes innocent, vous vous levez le cœur léger. Vous êtes innocent, vous pouvez rire et m'embrasser. Vous êtes innocent. On part sans savoir au combat, on en revient, la vie est là. Je l'ai refaite sans me douter que l'ombre allait me rattraper. Dans le miroir, ce n'est pas moi, ce type avec le regard froid. Qu'a-t-il donc fait pour me faire peur? Je vois le sang et la douleur. Vous êtes innocent, la table est mise dans le jardin. Vous êtes innocent, les dimanches avec les copains. Vous êtes innocent. Vous êtes innocent, comme il est joli ton dessin. Vous êtes innocent, le chat s'endort avec le chien. Vous êtes innocent. Chose étrange que la mémoire qui me torture sur le tard. Comme si un jour fallait payer, rien ne s'efface, tout est gravé. L'autre en moi veut se réveiller, mais je ne suis plus qui j'ai été. Dans le silence, un rire fou s'empare de moi, me coupe de vous. Vous êtes innocent, les fleurs pour les anniversaires. Vous êtes innocent, le soleil joue avec l'hiver. Vous êtes innocent. Vous êtes innocent, grand câlin pour si gros chagrin. Vous êtes innocent, ma main se glisse dans ta main. Vous êtes innocent. Vous êtes innocent, devant nous il y a la mer. Mais le vent hurle, le vent hurle, et je me
Noga qui nous interprétait ce soir, Laissez partir, un interprète qui sera d'ailleurs présent le 12 juin, c'est le dimanche à 16h dans ce Festival de la Terre édition 2016.
Radio Django, la rose des vents.
Ce soir, dans La Rose des Vents, et plus particulièrement dans la vie des collectifs, nous allons parler des familles d'accueil, Anna.
Oui, Fabien, en effet, avec les actuelles vagues migratoires qui ne cessent d'augmenter, les questions de logement des réfugiés est une réelle problématique. Alors, au niveau suisse, la Confédération tente de disperser les personnes de manière égale sur le territoire, mais nous avons également des organisations telles que l'Organisation Suisse d'aide aux réfugiés, alias LOSAR, pour répondre à cette problématique de l'accueil.
Alors, pour nous en parler aujourd'hui, nous accueillons Karine Matisse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée du projet Famille d'accueil. Et nous avons à vos côtés Morad Essa. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes, vous, bénéficiaire de LOSAR.
Alors, Karine, vous travaillez pour LOSAR. Pouvez-vous nous parler spécifiquement de ce que vous faites au sein de cet organisme ?
Oui, alors je suis chargée du projet famille d'accueil dans le canton de Vaud et de Genève depuis janvier 2016 et également rédactrice francophone de l'organisation. Alors dans le cadre de ce projet de famille d'accueil, donc je suis surtout coordinatrice, donc j'organise les rencontres avec les familles, je visite les logements, je suis le contact des autorités cantonales qui me soumettent des candidatures de bénéficiaires intéressés par le projet et ensuite on fait connaissance à travers ces rencontres.
Justement, vous nous parlez de ce projet famille d'accueil. Comment ça fonctionne exactement ?
Alors, il y a plusieurs étapes de la procédure. D'abord, les familles soumettent une proposition de logement en s'inscrivant à travers notre site internet, en remplissant un formulaire. Donc, le formulaire en ligne avec des indications. Donc, elles indiquent leurs coordonnées, la taille du logement mise à disposition, plusieurs informations comme ça. Et après ça, donc, moi, je les contacte, j'organise une rencontre. Je contacte ensuite les autorités cantonales pour voir qui sont les personnes bénéficiaires intéressées et on organise les rencontres. Après ça, les deux personnes concernées ont un temps de réflexion pour savoir si elles veulent ou non se lancer dans l'aventure. Et c'est surtout en fait un projet d'intégration, donc c'est un projet à long terme. On demande aux familles, on leur recommande d'accueillir quelqu'un pour minimum 6 mois et ce délai peut être prolongé si les deux parties le souhaitent.
Et on raconte des fois, parce qu'il y a d'autres projets de famille d'accueil en Suisse, on raconte parfois qu'il est un petit peu difficile et compliqué de devenir famille d'accueil parce que paraît-il que les conditions sont assez strictes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus aussi là autour ?
Alors c'est vrai qu'au départ, on exigeait une salle de bain. C'était surtout pour garantir l'intimité du réfugié. Mais maintenant, on a assoupli nos critères et puisque c'est le dernier mot est laissé à la personne réfugiée, donc c'est à elle, quand elle rencontre la famille d'accueil, de nous dire si elle souhaite ou non partager la salle de bain. Et en général, elles sont bien sûr OK pour ça.
Au niveau de l'organisation de votre structure, vous pouvez envoyer des gens un petit peu à travers toute la Suisse ?
Non, alors c'est un projet pilote. On intervient sur 4 cantons, le canton de Berne, Argovie, Genève et le canton de Vaud. Et à la fin de l'année, il y aura une évaluation qui sera faite pour tirer un bilan de ce projet.
Donc concrètement, vous avez quelqu'un qui se présente à Genève, vous pouvez l'envoyer en Argovie ou dans le canton de Vaud ?
Ah non, pardon. Alors les requérants d'asile sont... Enfin, les requérants d'asile, les personnes réfugiées, donc sont sous la responsabilité des autorités cantonales. Mm-hmm. Donc elles sont attribuées à un canton et chaque canton a ses propres directives.
Nous avons à nos côtés ce soir également Morad, vous êtes vous bénéficiaire de ce projet. Comment est-ce que vous avez connu LOSAR ?
Alors en fait, c'est l'IVAB, mon assistant social, qui m'a dit vous allez vivre dans une famille d'accueil. On était 4 personnes. Donc ma famille d'accueil, où j'habite maintenant, ils ont décidé de me voir, de faire une présentation. Donc on a fait une présentation avec mon assistant social et il y avait aussi un chef de LOSAR. On a fait une présentation et à la fin du mois, ils ont accepté de m'accueillir.
Alors expliquez-nous comment elle s'est passée cette rencontre.
Alors en fait c'était intéressant pour moi parce que les gens, ils ont dit c'est difficile de vivre dans une famille en Suisse, en fait, avec famille suisse, parce que notre tradition est ça. J'ai hésité un peu, mais j'étais motivé de voir qu'est-ce qui se va passer après.
Et comment s'est passée votre intégration en Suisse depuis que vous êtes arrivé? Comment ça se passe, plutôt bien avec votre famille?
Oui, ça se passe toujours bien. Le mois de début, c'était un peu difficile pour moi. C'est une autre tradition et l'Europe est différente. Et c'était tout ça, c'était compliqué pour moi. Mais après, je suis habitué un petit peu.
Ouais. Et avant d'arriver en Suisse, quel a été votre parcours, Morad? Vous venez d'Érythrée?
Oui, je suis né en Érythrée, j'ai vécu jusqu'à 10 ans. Et après, mon père a décidé d'enquêter l'Érythrée. Il y avait un petit problème avec le gouvernement. On a quitté l'Érythrée, mais j'étais au Soudan, où j'habite maintenant, ma famille, au Soudan. En 2014, j'ai décidé aussi d'enquêter au Soudan parce que c'est difficile à vivre là-bas aussi. Donc, j'ai parti en Libye. J'ai travaillé pendant 6 mois avant que je parte en Italie. Après, je traverse la mer.
Pour la suite, Morane, vous imaginez rester encore quelques temps dans votre famille d'accueil ou quels sont vos projets pour un proche avenir?
Alors, pour... Au début, c'était 6 mois, le contrat. Mais maintenant, il n'y a plus de contrat. On vit comme ça parce qu'on s'en sent bien entre nous. Il n'y a pas de temps court fixé. Je suis toujours avec eux et ils vont bien m'accueillir. Et je veux bien rester avec eux aussi.
Eh bien, voilà des propos qui sont plutôt encourageants pour les familles d'accueil. Ouais. Une dernière petite question pour vous, Karine Mathis. Est-ce que n'importe qui peut s'intéresser à devenir famille d'accueil en vous contactant?
Oui, n'importe qui. C'est tout simple. Il suffit de faire la proposition sur notre site internet.
Et pour terminer, j'aurais une dernière question pour Morad. Quel message vous donneriez à des familles pour les motiver à accueillir des personnes dans la même situation que vous?
Alors, c'est... Les migrants, surtout, ils sont un peu pour de vivre dans une famille en Suisse, ici, en Suisse. Donc, la situation, c'est ce que je veux savoir. Je veux dire que c'est pas toujours si qu'on peut, qu'on veut, on peut. Donc, le message que je vous donne à les familles de Suisse, ici, c'est que ça... Et les gens qui... Surtout, je parle des migrants qui sont ici. Les migrants, ils sont forts de vivre dans une famille. Mm-hmm. Et puis... il y a beaucoup de... Les gens ici, les familles, on aide beaucoup. Comme moi, maintenant, j'ai reçu une décision, on peut dire, négative à mm-hmm. Berne. Mais c'est ça, c'est pour ça que je ne suis pas pauvre, parce qu'il y a une famille qui m'accueille. Ils vont toujours m'aider pour trouver un travail, pour intégration dans la famille suisse, surtout pour apprendre la langue. Et je trouve que ça, c'est bien que vivre les migrants dans une famille d'accueil, hein, dans une famille en Suisse.
En tout cas, un beau témoignage que vous nous livrez ce soir. Merci beaucoup, Morad Essa. Vous êtes bénéficiaire de ce projet Famille d'accueil. Et merci à vous aussi, Karine Mathis, qui êtes-vous chargée du projet Famille d'accueil à Lausanne. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Ce soir, dans La Rose des Vents, une chronique spéciale pour souligner ce mardi 3 mai, qui est la journée mondiale de la liberté de presse et l'occasion de parler des enjeux de la liberté d'expression et de l'information, bien sûr, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Nous en avions déjà un aperçu la semaine dernière avec le Burundi. Alors, Daniel, dans quel contexte est née cette journée mondiale de la liberté de presse?
Eh bien, il y a 250 ans. En 1766, la Suède et la Finlande adoptaient la première loi relative au droit à l'information qui stipulait le droit d'imprimer et de publier. Cette loi représente un tournant majeur car elle permet de rendre publique l'information. Dans cette perspective, les citoyens doivent avoir le droit de s'exprimer sans interférence de l'État et toute information détenue par l'État devrait être à la disposition des citoyens.
Alors cette loi est à l'origine des fondements de l'histoire de liberté de presse.
Eh bien oui, elle a inspiré et continue d'inspirer les États soucieux donc de favoriser la liberté d'expression et de pensée. Et c'est dans ce contexte qu'est né en 1991 des journalistes africains, victimes donc d'indemnisation, d'emprisonnement et de censure, se sont réunis donc du 29 avril au 3 mai en Namibie à Windhoek, et dans le cadre donc d'un séminaire sur le développement d'une presse africaine indépendante et pluraliste. Et à l'issue de ce séminaire organisé par l'UNESCO est née la déclaration de Windhoek, suivant laquelle la liberté de presse repose sur la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Cette déclaration est à l'origine de la reconnaissance de la Journée mondiale de la liberté de presse par les Nations Unies, célébrée mondialement donc depuis le 3 mai 1993.
Oui, toute une grande histoire. Alors ça, c'était pour l'origine. Et quels sont les buts de cette journée mondiale aujourd'hui ?
Alors chaque année, le 3 mai est célébré dans le monde entier et vise à encourager et développer des initiatives en faveur de la liberté de la presse, évaluer l'état de la liberté de la presse à travers le monde et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Mais c'est aussi l'occasion pour les acteurs concernés de rappeler que la liberté de presse est un droit qu'il faut sans cesse protéger et renforcer. Un reportage de Reporters sans frontières 2015 souligne que dans le monde, les conditions de travail des journalistes se sont dégradées en 2014 et que cette année 2014 affiche une nette régression, notamment concernant la liberté de l'information. Ce qui est assez gênant, c'est qu'on se rend compte qu'au lieu d'évoluer au XXIe siècle, on fait plutôt une forme de régression en termes de conflits, de menaces d'acteurs non étatiques, et les exactions commises sont de plus en plus violentes à l'endroit des journalistes. Dans des dizaines de pays à travers le monde, des publications sont donc censurées, condamnées, suspendues ou tout simplement n'ont plus le droit de paraître. Alors que des journalistes, des rédacteurs en chef et des éditeurs sont harcelés, attaqués, détenus, voire même tués.
Alors effectivement, toute une question relativement compliquée. Alors pour en parler ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marie Ether. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de la Fondation Hirondelle. Alors je vous voyais hocher de la tête tout à l'heure. C'est une question plutôt compliquée qu'abordait Daniel.
Oui, compliqué, bien sûr. Il faut se rendre compte que la liberté de la presse est quelque chose qui est un peu une évidence, je dirais, chez nous, en Occident, mais ce n'est pas universel. Et au niveau mondial, c'est une exception. Là, nous rejoignons quelque chose qui est vrai, pas seulement pour la liberté de la presse, mais pour beaucoup de droits humains, que nous considérons, mettons, en Suisse, en France, en Europe, aux États-Unis, comme universels. Nous les affirmons universels, mais ils ne le sont pas. Et à mon avis, l'erreur que nous faisons, c'est que nous les décrétons universels sans avoir consulté les autres. Et du coup, les autres ne sont souvent pas d'accord que nous ayons décrété ce qui est universel et ce qui ne l'est pas.
Ouais, toujours cette question de qui décide quoi. Jean-Marie Ether, vous êtes donc le directeur général de la Fondation Hirondelle, qui est une organisation non gouvernementale suisse de journalistes et de professionnels de l'action humanitaire. Fondée en 1995, elle crée ou soutient des médias d'information généralistes, indépendants et citoyens dans des zones de guerre, des situations de crise endémique ou des situations de post-conflit. On vous lisait récemment dans un article du Temps, Jean-Marie Ether, c'était en janvier 2015, et on nous disait que notre conception occidentale de la liberté de presse a du droit à l'information est minoritaire dans... Est-ce qu'elle est minoritaire finalement dans le monde ? En quoi ce modèle est minoritaire ?
Alors il est minoritaire parce que, si vous voulez, la liberté de la presse repose, comme on vient de le dire, sur des droits universels et sur, mettons de façon plus récente que l'évocation que vous venez de faire, puisque vous remontez à ce qui en Europe a été le début de la liberté de la presse. Mais de façon plus récente, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le fondement est là, qui dit donc, qui stipule la liberté d'opinion et d'expression. Là, nous sommes dans la liberté d'expression. Qui dit quoi ? C'est très simple. Chaque individu, donc c'est individuel, a droit à la liberté d'expression, ce qui signifie le droit de chercher, de recevoir et de répandre l'information et les idées, les deux vont ensemble, sans considération de frontières, très important, sans considération de frontières, par quelque moyen d'expression que ce soit. Fin de citation. Voilà la déclaration. C'est donc un droit de chaque individu, un droit individuel. Et c'est là-dessus que repose la liberté de la presse. La liberté de la presse n'est pas la liberté des journalistes parce qu'elle sortirait de je ne sais où. La liberté de la presse ne procède que de la liberté des gens à être informés sans considération de frontières ou de moyens.
Pour rebondir en fait sur cette capacité justement à exercer ce droit, des journalistes africains se sont réunis à Abidjan en 1995. Ils ont participé donc à un colloque pour évaluer justement les enjeux de la presse, l'état de la liberté de la presse. Quel est votre regard de manière générale sur justement cette expression et cette liberté de la presse dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique subsaharienne ?
Alors écoutez, je dirais que les situations sont assez différentes et encore une fois, c'est lié. Nous sommes dans des droits liés, c'est-à-dire que la liberté de la presse n'est pas indissociable des autres libertés et des autres droits. Donc vous êtes dans un ensemble et vous allez vous retrouver, surtout en Afrique de l'Est, je dirais, l'Érythrée. C'est le fond du classement, c'est le droit d'emprisonner, de tuer, que ce soit des journalistes ou des autres, enfin peu importe, tout le monde y passe. C'est le plus mauvais élève de la classe, si je peux dire, dans ce temps-là. Et ensuite, vous avez l'Éthiopie, le Soudan de Bachir, le Soudan du Sud. Ce sont des pays qui sont, c'est l'Afrique de l'Est, et là, ce sont des pays qui sont, de ce point de vue-là comme des autres, vraiment des liberticides. Ensuite, vous avez des pays en Afrique centrale qui n'ont pas une véritable tradition de liberté publique, je dirais. Et là, des situations aussi différentes quand même. Le Burundi, vous en parliez, je ne vais pas y revenir, vous en avez parlé lors d'une autre émission, mais c'est épouvantable. Le Rwanda, c'est évidemment un pays où il n'y a aucune liberté de la presse, mettons, pour parler de celle-là.
Congo, peut-être ?
Alors, la RDC est un cas... Ils sont très mal classés par Reporters sans frontières. C'est un cas un peu particulier quand même, dans la mesure où vous avez des exceptions à la non-liberté. Voilà.
Et si on remonte vers l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, la Côte d'Ivoire...
Alors là, évidemment, vous avez des pays magnifiques. Je dirais magnifiques parce que...
En termes de liberté d'expression,
oui,
donc.
Il faut de nouveau faire la relation, si vous voulez, entre une situation globale, démocratique, entre guillemets, et la liberté de la presse. Et là, vous avez le Sénégal, la Guinée est bien placée. Vous avez des pays qui sont vraiment où c'est assez bien.
Alors là, Jean-Marie Etter, on voit plusieurs pays qui sont plus ou moins bien. Quel est le but de la Fondation Hirondelle ? Est-ce que vous agissez dans tous les pays, même s'ils vont bien, ou seulement ceux où c'est la catastrophe ?
Non, nous agissons là où nous pouvons être utiles et où nous estimons qu'en tant que journalistes, notre organisation est la seule qui puisse apporter véritablement une réponse adéquate. Je dirais que pour faire très simple, que nos caractéristiques, c'est que nous agissons en tant que diffuseurs, donc nous diffusons de l'information. Nous n'aidons pas seulement d'autres à le faire, nous le faisons nous-mêmes, d'une part. D'autre part, nous agissons sur la durée. Nous estimons qu'agir sur un ou deux mois ou une année, c'est pas, si vous voulez, c'est justement réveiller le goût des gens à être informés. Ensuite, vous partez et c'est retour à une frustration encore plus forte. Donc, nous agissons sur la durée. Nous agissons en tant que diffuseurs et nous essayons de laisser des institutions solides sur place.
Alors qu'on comprenne bien, vous aidez à mettre, vous, des personnes qui savent transmettre l'information ?
Oui.
Est-ce que vous formez aussi des gens sur place pour que le flambeau puisse être pris ?
Oui. La formation, si vous voulez, alors peut-être une caractéristique, je ne crois pas à la formation.
Pourquoi ?
Ah, voilà. Merci. Parce que la formation, quand on vient, si vous voulez, que ce soit ici, hein, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans les pays où nous travaillons, c'est la même chose. Si vous venez et puis vous expliquez quelque chose à des gens qui sont très curieux pendant une semaine et puis vous repartez, mais qu'ils ne sont pas dans des conditions où ils peuvent utiliser ce que vous leur avez donné, de nouveau, vous ne faites rien d'autre que créer une frustration. Donc, la formation qui marche, c'est de... à l'intérieur d'une institution, soit celle que vous créez, soit une institution où vous êtes reçu et accueilli, de travailler pendant des années et des années en termes de journalisme, tout simplement en venant après l'émission auprès du journaliste, de l'animateur. Allez, on réécoute, on reprend. Qu'est-ce que t'as fait bien, qu'est-ce que t'as pas bien fait, pourquoi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Et le lendemain matin, on recommence, et le jour d'après, on recommence. Et vous faites ça tous les jours, tous les jours.
Mais est-ce que vous ne pensez
pas, les gens, pas autrement,
que c'est prétentieux de la part de l'Occident, justement, de proposer des modèles dans certains pays en termes d'apprentissage aux outils, je veux dire, radiophoniques? Et ça rejoint finalement la discussion que nous avons en fait au début de cet entretien, à savoir est-ce que ce n'est pas un luxe de l'Occident de vouloir imposer une manière de penser et de concevoir en fait cette liberté de l'information?
Alors, oui et non. Il y a des choses universelles. La bonnette de votre micro est verte. Que l'on soit soi-même jaune, noir ou blanc, on constate la même chose, la bonnette de votre micro est verte. Et là-dessus, nous serons tous d'accord. En revanche, à partir du moment où on va interpréter cette couleur, si je suis musulman pratiquant, je vais peut-être y voir quelque chose de significatif que vous ne verrez pas du tout, puisque ça ne vous dit rien de particulier qu'elle soit verte ou rouge. Eh bien, c'est à partir de toutes ces déclinaisons-là que l'on va remonter, d'une part, sur le rythme d'un récit, la manière de rendre compte de la réalité, et d'autre part sur la manière dont on voit la réalité. Et ça, c'est quelque chose que vous devez discuter et où nous, occidentaux, ne devons pas imposer nos critères et nos valeurs. En revanche, il est indispensable d'insister sur le fait qu'il y a des choses universelles, de les identifier et de ne pas se faire dire au nom de la différence culturelle qu'on a le droit de tuer, etc., etc., etc.
Absolument. Mais si on prend le cas de la Fondation Hirondelle et de différentes antennes qui existent dans différents pays d'Afrique subsaharienne, est-ce que vous ne pensez pas que finalement les médias d'information se substituent finalement à ce que l'État devrait faire? Et est-ce que ça pose un problème de manière générale au niveau éthique?
Non. Les médias, l'État devrait rendre accessible à tout public l'information qui concerne ce public à laquelle ce public a droit, que ce soit dans n'importe quel pays. C'est pas le cas en Afrique, évidemment, dans la plupart des pays, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas formalisée en tant que telle la plupart du temps. Mais l'État ne devrait pas se substituer aux journalistes qui, justement, de manière indépendante, doivent avoir un regard critique sur le fonctionnement de l'État. Le journaliste doit demander des comptes aux ministres, fut-il en Érythrée, au Congo ou ailleurs.
Jean-Marie Etter, aujourd'hui, on l'a dit, on est le 3 mai, la journée internationale de la liberté de la presse. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la Fondation Hirondelle?
Écoutez, c'est...
Est-ce que c'est symbolique, finalement?
C'est une journée importante. C'est une journée importante parce qu'elle nous permet de rappeler que les risques que nous courons en tant que journalistes en Europe... Mettons, en tant que journaliste en Suisse, si je fais une très très grosse bêtise, le pire que je risque, c'est, je crois, 3 mois de prison, et normalement avec sursis. Il faut vraiment que j'ai étranglé l'ensemble du Conseil fédéral pour passer en prison, quoi. Tandis que si je travaille au Congo ou dans beaucoup d'autres pays africains, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, je risque ma vie. Et la plupart dans nos équipes de la Fondation Hirondelle, vous avez beaucoup de journalistes qui courent des risques sur leur intégrité physique et parfois sur leur vie. Nous avons eu 2 journalistes qui ont été assassinés, nous avons eu des journalistes qui ont été extrêmement violentés. Et ces gens courent des risques énormes, individuels. Et il n'y a rien à voir entre ce qu'ils risquent et leurs conditions financières, la réalité dans laquelle ils travaillent et la nôtre. Et pour moi, la journée, le 3 mai, c'est l'occasion de rappeler ça, d'abord.
Et quelle importance est-ce que vous accordez, finalement, aux petits médias comme Radio Django, qui sont en Suisse? Est-ce que ça permet une visibilité, finalement, de l'invisible dans notre société lausannoise?
Évidemment. Je crois que la radio... Si vous voulez, il y a différents niveaux de proximité. Je crois que... On perd avec les réseaux sociaux, avec le net, la notion de forum national, de forum roman. qui est importante, qui est essentielle. Il est essentiel qu'il y ait un endroit collectif au niveau d'une région, d'un pays. Mais il est tout aussi essentiel qu'au niveau de groupes cohérents à l'intérieur de cette société, il y ait un lien social spécifique qui puisse se créer. Et c'est ce que vous faites.
Merci beaucoup Jean-Marie Ether d'être venu nous parler de cette liberté d'expression aujourd'hui et d'avoir fait avec nous ce tour d'horizon de la liberté de presse dans le monde. On le soulignera encore qu'il n'est pas encore gagné.
Merci à vous.
On vous souhaite plein de courage pour la suite et ainsi qu'à votre fondation que vous dirigez, la fondation Hirondelle. Et puis Daniel, encore, la liberté de la presse et d'accès à l'information reste essentielle au développement des démocraties. On le remarquait tout au long de cette interview.
Et oui, et puis depuis maintenant plusieurs années, plus de 100 célébrations nationales ont lieu chaque année pour commémorer cette journée. Et l'UNESCO, en fait, qui mène cette célébration, identifie un thème global. Et cette année, le prix du meilleur journaliste sera mis à Helsinki. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup Daniel pour la préparation de ce sujet, un sujet à réécouter à volonté et à diffuser depuis notre site www.django.fm.
J'ai droit à la différence, tu ne tueras point dans tous les livres saints.
En période de crise, de bise, de bise, de G's, on bise, on les brise. Ceux qui disent qu'on a tout faux et qui nous diabolisent. Quand on refuse, on dit non, ils n'auront pas de prise. Pour nous, la peur, c'est la goutte d'eau sur le pare-brise.
How many more must die? How many more displaced? How many cheaper girls must they sell a sex slaves? How many of our daughters turn to suicide bombers? Before we realize, we must wake from our slumber.
Laissez-nous parler, oui, c'est le thème de cette journée de la liberté de la presse et d'expression. Nous sommes effectivement le 3 mai.
Radio Django, culture.
Allez, on passe à la culture et ce soir nous parlons théâtre. Camille, tu es allée récemment assister au spectacle de deux jeunes humoristes lausannois.
Et oui Fabien, il y a quelques semaines de cela, je me suis retrouvée au théâtre du Vide-Poche à Lausanne, dans une petite salle comble pour assister à un « Deux hommes chauds ». Celui des humoristes Melvin et Renaud.
Donc une pièce humoristique.
Eh bien, j'ai beaucoup rigolé, et c'est certain que ces deux compères ne manquent pas d'humour, et dans leur spectacle, on trouve de tout. Personnages, accents, danse, logorées philosophiques, animaux, et même un petit film sur leur vie intime.
Oh, dis donc, ça c'est intéressant, mais celui qui saura le mieux nous en parler ce soir, en tout cas, je le pense, un des compères, C'est Renaud de Vargas, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Merci. Tu es donc un des deux humoristes sur scène de ce spectacle, deux hommes chauds. Alors ce soir, on va parler de ce spectacle. C'est en ce moment, il reste encore quelques places pour le Lido le 19 mai, hein, c'est ça?
Exactement.
Et il paraît que ta collaboration avec Malvin Zoya, c'est avant tout une histoire d'amitié.
Oui, au clair de lune, dans un bain chaud.
Romantique, ça.
Exactement. Il y a de ça quelques temps maintenant. On a commencé le théâtre, en fait, ensemble. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît. Et après quelques temps, on a fait de l'improvisation ensemble, toujours au sein de cette même troupe. Et puis, on a remarqué qu'on était souvent un peu les deux à se lever spontanément pour interagir avec le public, avec les thèmes que nous donnait le public et avec les thèmes qu'on donnait aussi nous-mêmes. Et un jour, on s'est dit, mais tiens, tu voudrais pas qu'on écrive un sketch, en fait? Ça a démarré comme ça. On a joué pour la première fois notre sketch au théâtre, au spectacle d'improvisation suivant, avant le spectacle d'improvisation. Ça a bien fonctionné et après on l'a joué pour la première fois au Festival de la Terre il y a de ça 4 ans maintenant.
Mais c'est quoi qui vous a vraiment poussé à écrire en fait ces blagues que vous faisiez entre vous?
On s'est dit justement pourquoi pas tester ce qu'on fait dans la vie sur scène. Au début ça faisait rire que nous. Aussi parce qu'il n'y a que nous qui les voyons à l'époque, ces blagues. Et c'est vrai que typiquement, à un moment donné, on chante une chanson en italien qui ne veut strictement rien dire pendant notre spectacle, si tu t'en souviens, Camille.
Oui, très bien.
Et typiquement, ça, c'est une chanson qu'on avait inventée alors qu'on avait à peine 14 ans à l'époque. Et en écrivant notre premier sketch, on s'est dit, mais tu voudrais pas qu'on balance ça, peut-être? Et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un sketch qui est basé sur ce qu'on aimait déconner à l'époque. Et du coup, ça s'est transformé en une heure de gros délire et c'est fatigant. On était bien morts à la fin de nos trois soirs au vide-poche.
Et puis un spectacle, comment ça s'écrit? Comment un spectacle comme ça?
Alors ça s'écrit par tranche. Chaque humoriste a un petit peu sa méthode. Les stand-uppers habituellement qui ont le petit avantage sur nous de pouvoir travailler seuls, c'est qu'ils pensent à une blague, ils la notent et puis ils la testent et puis ils peuvent adapter leur spectacle à chaque fois en fonction. Nous, c'est vrai que tous nos sketchs ont été joués pratiquement tous au moins une fois, mis à part quelques-uns lors du spectacle. Donc on a tous pu plus ou moins les tester, puis après ils évoluent sans cesse, on rajoute un truc, ce qui a moins marché la fois d'avant, on l'enlève pour la fois d'après. Et on arrive comme ça à une heure de spectacle.
Dans la préparation d'un spectacle comme celui-ci, l'écriture est extrêmement importante. Est-ce que vous avez été coaché? Est-ce que vous avez trouvé de l'aide de quelqu'un?
Non. Alors, j'en parlais hors antenne tout à l'heure avec Camille. On a un ami humoriste qui s'appelle Tom Avizel, que vous connaissez peut-être, qui faisait partie de notre troupe de théâtre à l'époque, en fait. Et c'est lui un peu qui nous a aussi poussé à écrire. Et puis, lors de l'écriture de notre premier sketch, c'est lui qui nous a... aider à trouver quelques transitions, comment peut-être rebondir sur certaines phrases et répliques. Mais après, dès lors, on s'est exclusivement occupé nous-mêmes de l'écriture de nos sketchs. On n'a jamais eu de co-auteur ou autre, donc on est assez indépendant à ce niveau-là, et c'est plutôt plaisant pour nous.
Donc en fait, vous travaillez vraiment un peu en réseau, c'est ça, tous les gens qui font du stand-up dans la région?
Exactement. On est un petit peu, on est devenus des potes à force finalement, parce qu'on a tous commencé via des open stage, des scènes ouvertes qui sont proposées en Suisse romande, principalement à Lausanne avec le Swiss Comedy Club au début. Et puis, c'est vrai qu'il y a un petit peu cette mono-écriture du stand-up qui consiste à parler du quotidien, de ce qui se fait tous les jours.
Et vous en faites référence à ça dans votre spectacle?
Exactement. On en joue un petit peu dans notre spectacle, on s'en moque, parce que Malvin, quand il est sur scène au début, il veut lui commencer son stand-up seul et il tente de faire plein de petites vannes à coups de « je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on prend le bus ». Et en fait, on a voulu se moquer un peu de cette facette du stand-up qui est extrêmement récurrente et très très utilisée aujourd'hui. Donc on a de la chance de pouvoir se démarquer de ça un petit peu, rien que parce qu'on est deux, mais on voulait vraiment ne pas rentrer dans le cliché habituel du stand-up.
Et la relation que vous entretenez, elle est vraiment au centre de vos blagues, de vos sketchs. Et en mettant en scène cette relation, j'ai aussi eu l'impression que vous vouliez parler de questions peut-être liées à la masculinité, parce que la relation entre vous, entre deux hommes, c'est aussi dans le titre, deux hommes chauds.
Exactement. Le titre du spectacle est issu en fait d'une des vannes qu'on a sorties pendant le sketch au début, avant même que ce soit un spectacle.
Oui.
Et on se demandait comment appeler notre spectacle, et c'est venu comme ça. Et puis concernant cette masculinité qu'on évoque, c'est vrai que, comme on le dit aussi dans le spectacle, au bout d'un moment, les gens se demandaient si on était aussi en couple dans la vie, en fait. Tant sur le ton de l'ironie que du sérieux, des fois je pense qu'il y a vraiment des gens qui se disent « mais tu crois vraiment qu'ils sont ensemble ?» Et à force d'entendre ça, ça nous a inspiré ce sketch des gays. Je vais essayer de pas trop spoiler pour ceux qui viendront le 19 mai, mais voilà, ça nous a évoqué ce thème-là, et du coup, c'est pour ça qu'on a eu envie d'aborder ce sujet aussi.
Et c'est pas trop coton de parler de ça en faisant des blagues sur une scène ?
C'est particulier, on a toujours évidemment peur de blesser des gens dans tous les sens du terme, si j'ose dire, mais... pardon, excusez-moi, ça va, il est pas trop tard, il faut encore...
Non, c'est bien,
c'est le problème.
Bien. C'est passé discrètement.
Ouais, très bien, je l'ai glissé comme ça sans faire exprès.
C'est bien.
Et je rajoute une
Cédric qui rigole en régie.
Parfait, merci beaucoup Loïc. Retrouve-moi au Lido le 19 mai. Donc c'était... On se demandait, mais comment on va aborder ce thème sensible qu'est l'homosexualité. Il y en a eu des débats pendant des années, des manifestations, et puis on a tenté, par le biais du thème qu'on utilise dans le spectacle, pour l'instant ça a fonctionné, on n'a pas trop reçu de plaintes. Il y a deux, trois personnes, il y a une fois une personne sur Facebook qui nous a écrit en nous traitant d'homophobes. Ça nous a fait bizarre, parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était pas du tout quelque chose qu'on représentait comme ça. Mais voilà, évidemment, on se heurte aussi à des gens à qui on ne plaît pas, ce qui est normal quand on se lance dans un domaine comme l'humour. On a plus ou moins réussi à aborder ce thème avec finesse, j'ai l'impression. Donc pourvu que ça dure.
En tout cas, aux spectateurs de juger, il y a aussi un autre quelque chose que vous faites beaucoup dans votre spectacle, c'est les imitations. Donc on a vraiment l'impression que vous aimez ça. Et qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous observez les gens dans la rue?
Oui, alors j'ai toujours eu une fascination pour les accents, accent vaudois, québécois, maghrébin, brésilien, etc. Et Maline est italien à 100%, même si ça se voit pas spécialement, avec son faciès irlandais et son prénom celtique. Et je sais pas, on a eu comme ça une affinité pour les accents, et puis au début, on les essaye seuls devant notre miroir comme des abrutis, et puis on a remarqué que finalement les accents c'était aussi quelque chose qui faisait rire, de jouer sur les clichés qui étaient reliés à ces dits accents, et c'est comme ça un petit peu que c'est venu, quoi.
Excellent. Et du coup, c'est quoi vos projets pour l'avenir, vos envies?
Après le 19 mai, bien sûr.
Après le 19 mai, bah, c'est d'emménager ensemble, évidemment,
hein, ben
pour pouvoir être un peu plus assidu sur le plan humoristique. Bah, là, disons, c'est vrai qu'on arrive dans une période qui va être un peu creuse. On a notre date avec notre spectacle le 19 mai. C'est la dernière fois de la saison qu'on jouera notre spectacle en entier cette année. Après, il y a toujours 2-3 scènes par-ci, par-là. On sera à Étoile, je crois, le 11 juin pour une soirée. On va aussi animer au mois de juin toujours un spectacle de danse en Valais. Donc voilà, ça bouge pas mal en Suisse romande, mais il y a quand même du mouvement. Et puis on espère pouvoir rejouer notre spectacle d'ici la rentrée, pourquoi pas en septembre.
Bon, c'est un spectacle où on rit beaucoup, enfin on est censé rire. Il paraît que Malvin offre une bière aux spectateurs, aux spectatrices qui ne riaient pas. Voilà. Renaud, un cours de claquettes, est-ce que vous êtes déjà arrivé?
Alors non, jamais, c'est simplement qu'en fait, ça dépend qui écrit et rédige l'événement. En l'occurrence, je me suis dit, bah tiens, pourquoi Malvin n'offrirait pas des bières aux gens s'ils rient pas? Mais c'est un peu des vannes entre nous, et c'est pour ça que Malvin a eu l'idée des claquettes. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais pensé moi-même, mais c'est original, j'aime beaucoup.
Bon, bah écoute, si ça arrive, tu nous tiens au courant, puis on en fait un reportage sur place.
Volontiers.
Merci beaucoup, Renaud de Vargas, d'être passé nous parler de ce spectacle ce soir, le Deux Hommes Show.
Merci à vous. En fait, ça m'a fait plaisir de venir ici parce que j'ai remarqué que c'était un peu à la chaîne, comme ça, les invités. Ça me rappelle un peu l'examen d'oral allemand en 9e. Il y a un côté chacun notre tour, mais c'était ça va, je suis bien.
On prendra ça comme un compliment,
oui.
N'est-ce pas, comparé à de l'allemand.
Toujours, vite zère.
On rappelle la prochaine date de ce Deux Hommes Show, ce sera le jeudi 19 mai au Théâtre du Lido à Lausanne, et c'est à 21h, encore quelques places?
Oui, on a encore quelques-unes qui sont réservables, tant sur le site du Lido que le site de la FNAC, ou même à la FNAC directement. On est en dessous de Gad Elmaleh et au-dessus de Jamel, ça fait bizarre. Les prix sont un peu différents, mais c'est toujours sympa.
Mais ça viendra.
Merci beaucoup
Renaud de Vargas, et merci à Camille pour la préparation de ce sujet. Un sujet à retrouver avec tous les liens pour la billetterie également sur notre site www.django.fm.
Radio Django, 18-19h.
Nous passons au mardi de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur et des coups de griffe. Ce soir, avec l'opéra, la semaine dernière, notre chroniqueur nous parlait donc de l'opéra. Et aujourd'hui, il nous invite à découvrir le Béjart Ballet en action, toujours gratuitement grâce aux photos de Léonore Beau qui sont encore exposées jusqu'au 24 mai à la Galerie de la Source.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
L'exposition Spectrum de Léonore Beau, qui se tient dans la galerie de la Source, n'est pas nouvelle, bien au contraire. Elle est même ouverte au public de 10h à 20h, tous les jours de la semaine, depuis le 11 décembre passé. Mais elle se termine bientôt, le 24 mai pour tout vous dire. Il n'est donc peut-être pas totalement inutile que je vous incite à aller la visiter, au cas où vous ne l'auriez pas encore fait. Certes, la galerie de la Source, ce passage entre deux bâtiments, n'est assurément pas l'endroit le plus propice à la contemplation dont puisse rêver n'importe quel amateur de photographie, avec son va-et-vient incessant d'aide-soignante comme de malades. Tout au moins, le personnel médical, à défaut des patients, est poli et ne manquera pas de vous saluer. Ce qui n'est déjà pas si mal, surtout si vous êtes du genre à non seulement vous faire marcher sur les pieds dans le métro, mais de surcroît houspiller si vous tentez vaguement de protester. Quant aux clichés eux-mêmes, que vous pouvez aussi découvrir sans vous déplacer sur le site internet personnel de l'artiste, ils sont plutôt intéressants, surtout dans leur manière de sculpter autant l'ombre que la lumière, plus rarement l'espace. Le reste peut être davantage convenu, notamment lorsque la photographe fige les mouvements des danseurs du Béjart Ballet dans des poses parfois à la limite de l'incongruité, se révèle néanmoins tout à fait dans la ligne de ce qui se produit aujourd'hui en la matière. Et donc, à défaut d'être très original, c'est au moins loin d'être vilain. Cependant, si vous voulez un conseil, évitez quand même de lire la présentation rédigée par Luc Debrenne, présentation qu'on peut justement trouver sur le site internet de l'artiste, car celle-ci use et abuse d'un tel verbiage contemporain, qu'elle risquerait de vous dégoûter illico et ainsi de vous détourner des réelles qualités plastiques de la série. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Cinq sujets au sommaire de ce grand direct de ce mardi 3 mai 2016. Le Festival de la Terre, la liberté de la presse et de la, avec la Fondation Hirondelle, puisque nous sommes le jour international de la liberté de la presse. Nous avions à l'instant Malvin, c'était Renaud que nous recevions, mais c'était pour le duo Malvin et Renaud, pour les deux hommes chauds, et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme qu'on vous proposait ce mardi. Tous les sujets sont à retrouver à partir de demain en podcast sur notre site www.django.fr. La semaine prochaine, nous aborderons une nouvelle thématique, la campagne au nom du profit des multinationales. Nous parlerons de l'alimentation, rendez-vous également avec Parle-moi Suisse. Et puis, dans l'immédiat, avec presque 7 minutes de retard, je cède la place au Café des Croissances qui se tient aujourd'hui à Pôle Sud. Il traitera notamment des multinationales à l'ère de l'anthropocène. C'est tout de suite ici à Pôle Sud. Je vous donne donc le rendez-vous dans quelques instants, ici même au centre de Lausanne. Quant au grand direct de Radio Django, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain pour être précis, à partir de 18h, en direct et en public de Pôle Sud, comme chaque semaine. Je vous souhaite une très très belle soirée d'ici là.
Radio Django à écouter sur radio.django.fm.